Bien, donc commençons à cet exposé. Alors vous verrez, moi ce sera une approche que j'ai nommée politologique. Je reste dans mon champ disciplinaire. J'ai quelquefois eu l'occasion de me frotter un peu à l'histoire ou à la sociologie et je m'y suis parfois un peu brûlé. Donc maintenant je reste en sciences politiques. Plus précisément, mais je ne vais pas y revenir dans les détails, j'utilise mon bon vieux cas théorique qui est celui de David Easton, pour celui qui le connaisse, dans l'analyse de ces résultats. Pour la méthodologie, en fait, je me suis basé sur deux types de choses. D'une part, les documents parlementaires, qui sont riches et particulièrement intéressants. Et j'avais réalisé, il y a quelques années déjà, des entretiens, une vingtaine d'entretiens semi-directifs avec les acteurs clés du terrain pour bien comprendre les enjeux liés à ces questions. Alors avant d'analyser la loi, je vous offre quelques définitions. D'abord le concept de génocide, ensuite celui de négationnisme. Le concept de génocide, je ne vais pas y passer de longs moments, et je vais d'emblée prendre une approche de type juridique. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est la définition qui est privilégiée dans la loi du 23 mars 1995. On peut revenir sur cette approche, la discuter après si vous le souhaitez, mais dans un premier temps, définissons-le. Pour ce faire, il faut utiliser la fameuse convention du 9 décembre 1948 sur la prévention et la répression des crimes de génocide qui nous dit que le génocide s'entend par une série d'actes énumérés dans cette convention commis dans l'intention de détruire en tout ou en partie un groupe national, ethnique, racial ou religieux. Alors si on veut faire bref, la définition juridique en fait contient trois éléments. Premièrement, il y a un élément de type matériel. Ce sont les actes qui sont cités dans la Convention, par exemple le meurtre de membres du groupe ou le transfert forcé d'enfants du groupe ou d'un autre groupe. Ensuite, il y a l'élément moral, c'est l'intention. Alors là, on voit tout de suite l'approche juridique qui arrive avec cette dimension intentionnelle, caractéristique, je vais dire, du droit pénal. Et puis troisième point, c'est le destinataire particulier, puisqu'il s'agit d'un groupe, dans ce cas-ci d'un groupe national, ethnique, racial ou religieux. On voit d'ailleurs que le groupe politique est exclu de la Convention. On pourrait y revenir, mais ça s'explique pour des raisons, on va dire, assez bien diplomatiques à l'époque où la Convention avait été adoptée. Alors, d'un point de vue international, trois génocides font l'objet d'une reconnaissance juridique, le génocide des Juifs, le génocide des Tutsis et le génocide commis sur le territoire de l'ex-Yougoslavie. Concernant le génocide des Arméniens, il n'y a pas de reconnaissance internationale explicite. Tout au plus, on parle dans un rapport de la sous-commission des droits de l'homme dans les années 80, du premier génocide du siècle, mais on n'a jamais parlé de génocide des Arméniens et il n'y a jamais eu de reconnaissance internationale. Ce qui va avoir des conséquences pour la suite, notamment lorsqu'on veut élargir le champ d'application de la loi de 95, puisqu'il faut, si on se réfère à une autorité internationale, il n'y a pas ici le cas du génocide des Arméniens. Donc ça, c'est le concept de génocide. Maintenant, sur le concept de négationnisme, traditionnellement, on fait la différence entre le révisionnisme et le négationnisme. Le révisionnisme, en fait, consiste à remettre en cause un événement, mais peut prendre une forme positive. Si on l'appréhende dans la dimension recherche scientifique, recherche historique, il s'agit, en fonction des avancées de la science, de remettre en cause certains faits, mais il n'y a pas là d'intention méchante. Pour dire autrement, c'est une reconsidération des interprétations historiques en fonction des avancées de la réflexion ou du cours des événements. Le négationnisme, par contre, se différencie du révisionnisme puisqu'il a justement cette intention méchante. Il vise à nuire à un groupe bien précis, en l'occurrence, si on prend la définition du négationnisme au sens strict, c'est les Juifs, ou si on prend la définition du négationnisme au sens large, d'autres groupes, tels que, par exemple, les Tutsis ou les Arméniens. Alors la Belgique, elle a été concernée par le négationnisme. Au début des années 90, on a d'abord eu un cercle d'étudiants à l'Université libre de Bruxelles qui avait été mis en place par Olivier Mathieu, c'était l'étudiant, qui distillait une série de thèses négationnistes d'un point de vue universitaire, en tout cas par cette plateforme universitaire. Et puis il y a, et il existe toujours, le fameux Vrij Historisch Onderzoek, qui est le centre de recherche historique, la traduction en néerlandais, qui est basé à Anvers et qui est dirigé par Siegfried Verbe, qui est un négationniste, vous allez le voir par la suite, connu en Belgique, notoire, et qui distille régulièrement des thèses négationnistes. Alors, durant la fin des années 90, on a eu le développement des thèses négationnistes sur Internet, ce qui a poussé, en fait, certains États membres au niveau du Conseil de l'Europe à vouloir légiférer sur cette matière. Et c'est pour cette raison qu'en 2003, on a eu un protocole additionnel à la Convention sur la cybercriminalité. Alors, je vous parle d'un protocole additionnel à la Convention sur la cybercriminalité. Ça a l'air tout à fait éloigné du sujet, mais vous verrez qu'en 2004, lorsqu'on a voulu élargir le champ d'application, c'est par l'adoption de ce protocole que les débats ont commencé, en fait, qui visait donc et qui incitait les États à réprimer les actes négationnistes sur la toile, mais les actes négationnistes au sens large. Il n'y a pas de définition, en tout cas ça ne relevait pas d'un génocide bien précis. Voilà, ça c'est pour les définitions. On va passer maintenant en revue d'abord la loi du 23 mars 1995, donc qui a débuté en 1992, puisque deux députés du Parti Socialiste Belge avaient proposé une loi, les mots sont parfois importants parce qu'ils montrent aussi ce qu'il en est, tendant à réprimer la contestation, la remise en cause et la négation ou l'apologie des crimes contre l'humanité et des crimes de guerre, qui ne correspond pas donc au champ d'application et au nom de la loi actuelle. Alors pourquoi est-ce qu'en 92, subitement, deux parlementaires socialistes souhaitent réprimer le négationnisme? Trois raisons. Premièrement, il y a une vague d'exclusion, de haine, de racisme et d'antisémitisme qui est en train de frapper la Belgique à ce moment. Et notamment, il y a de plus en plus de victimes juives qui sont la cible de ces actes antisémites. Deuxièmement, en 92, on a déjà certains États voisins à la Belgique qui ont adopté une législation réprimant le négationnisme. C'est le cas de la France avec la loi Gayssow, c'est le cas des Pays-Bas. C'est le cas de l'Allemagne, c'est le cas de l'Autriche. Dès lors, la Belgique se trouve entourée de pays qui répriment le négationnisme, et on a toute une série de négationnistes qui vont venir en Belgique pour diffuser leur thèse. Certains parlementaires souligneront d'ailleurs que la Belgique est devenue la plaque tournante du négationnisme. Et puis, troisième point, c'est l'influence de ces rescapés donc, du génocide des Juifs, qui fait dire à certains parlementaires à l'époque qu'il y a une temporalité entre ces rescapés et eux, puisqu'ils ont toujours vécu, nous disait notamment un sénateur PS, dans la description des horreurs du nazisme et qui les rend plus enclins à légiférer sur cette thématique. On a donc ces pressions. Comment maintenant analyser les débats au sein du système politique? Premier point, c'est la présence des acteurs. À l'époque, en 92 jusqu'en 95, il y a très peu d'acteurs qui interviennent dans les discussions. On a essentiellement les parlementaires, et puis on a un centre public, qui est le Centre pour l'égalité des chances et la lutte contre le racisme, mais qui lui est une institution publique, inféodée au pouvoir politique. On a aussi deux experts, vous verrez, c'est peut-être anecdotique, mais ça reviendra par la suite, qui interviennent, un historien et un juriste, et puis certaines juridictions, notamment la Cour constitutionnelle belge, qui va donner une interprétation à cette loi et lui donner tout son sens. Mais de manière générale, en 92 et 92-95, très peu finalement de personnes dans le système politique discutent de ça, si ce n'est essentiellement les parlementaires. De quoi discutent-ils durant ces débats parlementaires? Alors pour ça, je vous ai mis la proposition initiale dans le document, page 2, qui reprend en fait le texte tel qu'il avait été rédigé par les parlementaires, par les deux personnes qui ont fait la proposition. On voit qu'on parle de crimes contre l'humanité et de crimes de guerre, mais qu'en aucun cas on parle de crimes de génocide. À l'époque où la proposition est faite, il va en fait avoir deux lignes de fracture durant les discussions. La première ligne de fracture, je l'ai nommée ainsi, c'est la ligne de fracture droit-histoire. Cette ligne de fracture droit-histoire, en fait, la question qui se cache derrière cette dichotomie, c'est de savoir si un pouvoir législatif, et donc politique, ou un pouvoir judiciaire peut intervenir sur des questions d'histoire. Dès lors, il y aura les parlementaires qui adoptent une attitude de type historique, qui consiste à laisser aux scientifiques le soin de traiter exclusivement la discipline historique. Et puis, il y aura l'autre pendant, le versant droit, qui accepte qu'un pouvoir judiciaire, législatif et donc politique intervienne sur des questions d'histoire. Parmi les justifications qu'on peut relever dans les travaux parlementaires à l'époque, on a par exemple ce député flamand qui refusait une intervention d'un pouvoir politique en disant qu'il fallait faire un travail basé sur l'information et l'enseignement, ou un autre député socio-chrétien du côté francophone qui disait qu'il n'appartenait pas au juge de porter un jugement sur l'histoire. On pourrait passer en revue toutes les opinions, mais elles ne valent pas toujours la peine, ça, il y a moyen de discuter d'autre chose que ça. Ça, c'est la première ligne de fracture. Deuxième ligne de fracture, elle concerne la liberté d'expression, et plus précisément, la limitation à la liberté d'expression. On sait donc que la liberté d'expression est un droit adopté dans de nombreux pays, stipulé dans de nombreuses constitutions, conventions internationales, etc. Mais cette liberté d'expression, elle n'est pas absolue. Il peut parfois y avoir des restrictions. Dès lors, la question qui se pose ici, c'est de savoir si, finalement, en termes de négationnisme, est-ce que le négationnisme justifie ou non la limitation à la liberté d'expression ? Autrement dit, est-ce qu'on peut tout dire ? Est-ce qu'on peut dire que le génocide des Juifs et des chambres à gaz n'ont pas existé ? Oui ou non ? Là, deux positions. Il y a ceux qui vont considérer que le négationnisme ne justifie pas cette limitation à la liberté d'expression, et d'autres qui vont considérer l'inverse. Alors, pour faire bref, malgré les oppositions, on va avoir deux grands... quand, je veux dire, ceux qui considèrent que le négationnisme doit être réprimé, et puis ceux qui considèrent que, en tout cas, la proposition telle que formulée initialement par les parlementaires est trop large. Et donc il faudrait restreindre un peu le champ d'application pour pouvoir limiter à des cas bien précis la limitation à la liberté d'expression. Alors je vous ai fait une représentation graphique des positions des acteurs à l'époque, donc, que j'ai identifié essentiellement les parlementaires. Les débats ayant été discutés en commission, il y a moins d'une dizaine de parlementaires qui sont intervenus. Puis j'ai aussi positionné le Centre pour l'égalité des chances, les experts, qui sont Stengers et Rigaud, dans le coin inférieur droit. On voit en fait que, essentiellement, il y a une opposition entre ceux qui considèrent que le pouvoir politique peut intervenir sur des questions historiques, et qui considère en même temps que le négationnisme justifie la limitation à la liberté d'expression, et puis ceux qui sont à l'opposé de cette position. Alors on a quand même des positions qui sont fort tranchées. Pourtant, durant les débats, on va arriver à un consensus. Pourquoi est-on arrivé à ce consensus ? Tout simplement parce que les deux parlementaires ont reformulé leur proposition initiale, et ont posé un amendement, que vous retrouvez aussi dans le document, juste en dessous donc de la figure 1. Et là, ils nous disent qu'il faut nier, les mots sont importants, hein, minimiser grossièrement, chercher à justifier ou approuver le génocide commis par le régime national-socialiste allemand durant la Seconde Guerre mondiale. Et puis ils renvoient à la définition de la Convention du 9 décembre 1948. Alors cet amendement va véritablement permettre de mettre tout le monde d'accord. Parce que, tant d'un point de vue ligne de fracture droit-histoire que du point de vue ligne de fracture limitation de la liberté d'expression justifiée ou non, on a les acteurs et les parlementaires qui sont d'accord pour deux raisons. Premier point, c'est la précision du texte. Il concerne en effet uniquement le génocide des Juifs. Deuxième point, c'est l'adjonction du terme « grossièrement », qui permet en fait de ne pas viser le véritable travail scientifique, puisqu'un historien ne devrait pas normalement, reprendre les termes, donc minimiser grossièrement le génocide des Juifs s'il a fait un travail scientifique. J'imagine un pauvre Thésar qui travaille pendant 4 ans, il lui entend dire « c'est un travail grossier », ça ne devrait pas être le cas. Donc, beaucoup de personnes sont rassurées, il n'y a pas de problème, le champ d'application est très strict, un génocide, et en plus, il faut vraiment faire un travail grossier, sans problème. On accepte donc la loi, et tout le monde est d'accord, excepté à l'époque le Vlaams Blok, qui est donc le parti d'extrême droite flamand, qui, même s'il est opposé, a quand même voté en faveur de la loi. Il faut quand même bien revêtir un certain je veux dire, habit démocrate dans le système politique, donc va quand même voter pour, même s'il est opposé. Alors on va revenir après, la loi est donc adoptée. Un autre fameux, c'est Christopher Bay, vous savez, ce négationniste anversois. Il décide, une fois que la loi est adoptée, de dire « Moi, cette loi ne me va pas. je suis quand même un négationniste, donc je suis concerné par cette loi, donc je vais aller devant la Cour constitutionnelle et je vais introduire un recours en annulation devant la Cour. On peut en Belgique, je ne sais pas ce qu'il en est en France, mais un particulier peut en Belgique introduire un recours devant la Cour constitutionnelle s'il justifie un intérêt. Dès lors, notre fameux Verbeek va dire à la Cour, ben moi je suis un négationniste, donc je justifie d'un intérêt. Et ce qui est fabuleux, à l'époque, c'est ça aussi la magie du système démocratique, c'est que la Cour constitutionnelle va dire, mais oui, notoirement connu en tant que révisionniste, donc comme négationniste, vous justifiez d'un intérêt pour porter un recours contre cette loi. Et donc la Cour constitutionnelle va analyser la loi et donner un sens à cette loi. Alors, je vais tout de suite briser le suspense. Il va bien évidemment, s'il a été accepté, si son recours a été accepté, vous devez vous douter que la Cour constitutionnelle va quand même l'éjecter par une autre porte et rejeter le recours en annulation de M. Verbeek. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'elle va donner la définition, en fait, des termes de la loi. Alors là, je vous les ai aussi notés. Et je pense que ça vaut la peine parce que ça pourrait en tout cas intéresser le débat français et les notions qu'on utilise. On a tendance parfois à inciter les parlementaires français à s'inspirer de ce que peuvent dire certaines juridictions à quelques centaines de kilomètres de là. Il y a le terme nié et approuvé. Dans le premier cas, c'est on nie l'existence du génocide des Juifs. Dans le deuxième cas, approuvé, on lui donne son approbation, ou on souscrit dès lors à ce point à l'idéologie nazie. Le fait de chercher à justifier, lui, quant à lui, consiste à tendre par une réécriture des données historiques à présenter le génocide considéré sous un jour acceptable, à légitimer ainsi l'idéologie nazie, et puis minimiser grossièrement. Alors là, le législateur ne vise pas le fait de minimiser sans plus, mais uniquement le fait de minimiser à l'extrême, et par là même de manière grave, outrancière et offensante. Ce qui est aussi intéressant, c'est que la Cour va donner la philosophie, en fait, de la loi du 23 mars 1995, puisqu'elle dit, et elle va en quelque sorte donner sa définition du négationnisme. Il s'agit de réhabiliter une idéologie criminelle et hostile à la démocratie et d'offenser gravement une ou plusieurs catégories d'êtres humains. Réhabiliter une idéologie criminelle et hostile à la démocratie et offenser gravement une ou plusieurs catégories d'êtres humains. Dès lors, la Cour considère que la loi répond à un besoin social impérieux, c'est le terme qu'elle utilise, et elle estime aussi que les juridictions de fond vont être amenés, donc les cours et tribunaux, à devoir analyser ce qu'il en est dans les faits. Et elle considère que le fait que des juges se prononcent sur des attitudes négationnistes, un tel pouvoir, nous dit la Cour, est nécessaire en raison de la multiplicité et de la subtilité des formes que peut emprunter l'expression des thèses négationnistes. Alors cette loi, elle a fait l'objet d'une série d'applications par des cours et tribunaux en Belgique. Je pense qu'il y a environ 10-15 arrêts qui ont été faits depuis 1995. J'en ai repris deux ici, deux qui me semblent vraiment très intéressants. Le premier, il émane du tribunal de la jeunesse de Dinan, donc une ville belge, puisqu'on a un jeune de 16 ans, je ne sais plus en quelle année, en 2001, qui décide en classe de faire le salut hitlérien et de prononcer « Heil Hitler » devant toute sa classe. La professeure n'est pas très contente, évidemment, et elle se dit « Bon, je vais quand même porter plainte contre les parents et contre l'enfant à partir de la loi du 23 mars 1995, puisqu'il est en public, il est dans une classe d'élèves. » Alors le tribunal de la jeunesse, comme le jeune n'a pas 18 ans, va intervenir, et le juge va appliquer la loi, donner une interprétation de la loi. Il va dire « Dans ce cas-ci, le jeune... » Il n'avait pas cette idéologie criminelle, il n'avait pas cette intention méchante. La Cour dit il a agi avec une attitude de suiveur imbécile et ignorant. J'adore cette formulation, je trouve que c'est magnifique, je plains le jeune. Je crois que je n'accepterais pas très bien de me faire traiter de suiveur imbécile et ignorant à 16 ans, ce qui montre que le juge, finalement, a son rôle social à jouer dans ces cas-là. Autre affaire, là on est à Zaventem, donc à l'aéroport de Bruxelles. On a un vol qui va vers Israël et on a des personnes qui sont dans les bagages, qui trient les bagages dans l'aéroport, qui décident de mettre des croix gammées sur toutes les valises à destination d'Israël. Oui, il s'en passe des choses parfois en Belgique. Et au-delà de la crise politique, heureusement d'ailleurs. Et là, le tribunal correctionnel de Bruxelles va condamner en fait les personnes, les ouvriers qui ont traité les valises, puisqu'il s'agit, selon la Cour, d'une incitation odieuse au génocide. Alors au terme de cette loi, donc moi je mentionne que c'est une réussite législative. Pourquoi ? Parce qu'on est finalement dans un processus politique assez classique. On a des pressions qui sont exercées à un moment donné sur un système politique, des acteurs, un débat avec d'abord des oppositions, puis un certain consensus, une loi qui est finalement adoptée, qui est acceptée, et qui est acceptée aussi d'un point de vue constitutionnel par la Cour constitutionnelle, et qui fait l'objet d'une série d'applications par les cours et tribunaux, sans jamais, et jusqu'à présent ça n'a jamais été le cas, être remise en cause. Donc il y a là un certain succès législatif, entre guillemets, quand on voit le processus, puisque tout a l'air de bien se passer. Et puis arrive donc 2004, où là on a une proposition de la ministre de la Justice, qui décide à l'époque donc de revenir sur cette loi et d'élargir le champ d'application de la loi du 23 mars 1995, notamment parce qu'il y avait ce fameux protocole, la 10.1, la cybercriminalité. La ministre de la Justice, donc, qui a adopté ça avec ses collègues européens au Conseil de l'Europe, revient en Belgique et dit « Mais voilà, moi j'ai adopté un protocole, on nous incite à légiférer, je vous propose de réprimer la négation de tous les génocides. » En tout cas, des génocides, des crimes contre l'humanité, tels que définis par le droit international et reconnus comme tels par une décision finale ou définitive du tribunal militaire international, blablabla, le tribunal donc de Nuremberg. Comme vous l'avez donc à la page 5. Donc là, on a véritablement une pression, entre guillemets, européenne, qui se fait sentir pour légiférer. On a également la Turquie qui intervient très rapidement dans le débat à travers son ambassadeur et la présence de l'ambassadeur notamment au débat parlementaire. Et puis la communauté arménienne, en opposition à cela, qui se manifeste beaucoup. Alors comment se sont passés les débats de 2004 à 2007 ? D'abord, revenons sur le nombre d'acteurs. Je vous ai dit, en 92-95, très peu d'acteurs, essentiellement des parlementaires. Ici, et ça fait un peu écho à ce qui est mentionné dans l'ouvrage sur la politique mémorielle en France, avec ces entrepreneurs de mémoire, on a toute une série d'acteurs qui vont intervenir. D'abord, on a ces journalistes indépendants, qui vont traiter le dossier d'une manière particulièrement intense en Belgique. C'est quand même pas un sujet qui excite les foules, la répression du négationnisme, et pourtant, très régulièrement, on va avoir des cartes blanches, des forums, des articles, essentiellement dans les médias francophones. Et on va avoir deux journalistes indépendants qui vont traiter le dossier d'une manière particulièrement assidue, et vont créer un blog où ils seront à la pêche à toutes les informations, et ce blog existe toujours. Vous avez les détails presque jour par jour de l'évolution de ce dossier, et c'est... Deux journalistes indépendants ont véritablement fait pression sur des grands journaux et des grands quotidiens belges comme Le Soir ou La Libre Belgique pour traiter de ce fait. Alors si ces acteurs médiatiques sont importants, il faut savoir que ça s'est quand même arrêté à la frontière linguistique. Au nord du pays, et ça je pense qu'on pourrait y revenir dans les débats, on n'a pas le même intérêt pour la question du négationnisme. Et d'ailleurs, de manière plus générale, et on le constate de plus en plus maintenant, il semble y avoir un peu des politiques mémorielles différentes au nord et au sud de la Belgique. Ensuite, outre ces journalistes, on a une série d'associations. Je vous avais dit en 1995 qu'on avait le Centre pour l'égalité des chances, qui est une institution publique. Ici, ce n'est plus le cas. On a toute une série d'associations privées qui vont se regrouper sous une plateforme, mais qui défendent différents intérêts. On aura par exemple le Comité des Arméniens de Belgique, on aura la Fédération Euro-Arménienne pour la Justice et la Démocratie, la Fédération Internationale des Droits de l'Homme, l'Institut Kurde aussi, la Ligue des Droits de l'Homme, et puis on aura aussi certaines associations juives, pas toutes, le Centre communautaire laïque juif, ils vont se mettre ensemble avec le mouvement contre le racisme, l'antisémitisme et la xénophobie pour faire des propositions aux parlementaires afin de légiférer et d'élargir le champ d'application de la loi de 1995. Troisième type d'acteurs, on a tous ces experts. Alors les experts, ils sont multiples. Il n'y a pas que des historiens qui vont intervenir. On va avoir des professeurs de droit, mais aussi des profs de communication. On aura aussi des philosophes qui vont intervenir à travers des cartes blanches, mais essentiellement à travers des notes qu'ils vont adresser, parfois des notes qui font 40-50 pages à l'ensemble des parlementaires, qui ne sont pas connues du public, et qui en fait tentent à analyser les différentes propositions. Et ces notes sont vraiment très intéressantes pour un chercheur, parce qu'elles permettent de poser certaines questions et d'aller vraiment dans les détails sur certains points. Et eux, quand je rencontrais ces parlementaires, les parlementaires régulièrement me sortaient ces notes et, pour donner leur position. Et donc on voit que certains parlementaires ont été influencés par ces experts. Dès lors, on a un système politique qui s'est véritablement ouvert à une série d'acteurs, oppositions bien divergentes. Revenons maintenant sur les lignes de fracture, les débats lors des discussions. On va retrouver deux lignes de fracture. On va retrouver les deux lignes de fracture qu'on avait déjà vues en 1995, la ligne de fracture droit-histoire, et puis la ligne de fracture concernant la limitation de la liberté d'expression. Et là, je vais vous prendre quelques affirmations de parlementaires. Sur la ligne de fracture droit-histoire, on a par exemple un socio-chrétien flamand qui nous dit que les parlementaires ne sont pas des historiens, qu'ils se positionnent contre l'intervention d'un pouvoir législatif. Un député libéral très en faveur de l'extension du champ d'application de cette loi nous dit « L'historien doit écrire l'histoire, mais quand il y a des négationnistes, il faut alors utiliser le droit. » Et puis un autre, un parlementaire socialiste, Philippe Mahou, son nom ne vous dit rien, mais je vais vous expliquer après pourquoi, nous dit « Une disposition législative fige la vérité historique et brime toute forme de recherche. » Alors Philippe Mahou, lui, est en fait la personne qui, en 97, a lancé, qui est à la base de la résolution du Sénat belge visant à reconnaître le génocide des Arméniens. On a en Belgique donc une résolution d'une des deux chambres fédérales qui reconnaît le génocide arménien, et c'est Philippe Mahou, ce parlementaire socialiste, qui l'avait lancé. Ici, il n'est pas du même avis. Il considère qu'une disposition réprimant le négationnisme fige la vérité historique, et ce qui lui pose problème, en fait, c'est la dimension répressive, la dimension pénale. Et puis une autre parlementaire socialiste, mais là au nord du pays, estime que les institutions politiques ne peuvent porter un jugement juridique sur des faits historiques. Vous voyez, les positions sont différentes. Sur la ligne de fracture concernant la limitation de la liberté d'expression, on aura une parlementaire socio-chrétienne francophone qui nous dit que la limitation fait peser sur la liberté d'expression un poids trop important. Du côté flamand, on considère que la limitation de la liberté d'expression est justifiée si un génocide est établi par une juridiction internationale indépendante. Le sénateur libéral en faveur donc, de la loi nous dit que le rôle d'un homme politique est d'éviter que la société belge ne subisse de soubresauts en raison du négationnisme de certains. Et puis enfin, un socialiste flamand nous dira que c'est une atteinte aux droits humains essentiels. Je vais dire rien de neuf, l'opposition classique qu'on avait déjà pu constater en 1995. Et puis, il y a une troisième ligne de fracture qui va se manifester et qui va être déterminante dans les débats. C'est la ligne de fracture que j'ai appelée à l'époque donc éthique diplomatique. Alors, cette ligne de fracture, elle concerne en fait le traitement diplomatique de la répression du négationnisme et elle cherche à savoir s'il faut répondre oui ou non aux pressions qui ont été exercées, essentiellement par la Turquie, puisqu'il faut savoir le débat 2004-2007 s'est focalisé sur le génocide des Arméniens. Et donc, quelle attitude adopter par rapport aux pressions diplomatiques? Soit on considère, et c'est l'attitude diplomatique, qu'il faut en tenir compte, et dès lors, éventuellement, ne pas légiférer. Soit on prend une posture plus éthique, et on considère qu'il faut les minimiser ou les nier dans le cadre des débats, et quand même adopter la loi réprimant le négationnisme. Ainsi, on a différentes positions. Un parlementaire qui mentionne que certains principes ne sont pas négociables et que la diplomatie doit trouver son chemin avec ces principes. Un autre qui considère que la démarche diplomatique ne doit pas se faire à l'abandon des principes fondamentaux. Et puis on a un libéral flamand plus réaliste qui nous dit « S'il est parfois utile de divulguer le message des droits de l'homme, il est tout de même impossible de juger tout le monde en fonction d'un même standard ». Alors ce point-là, il est important parce que c'est ça, on est, outre les autres raisons, mais c'est ça qui a poussé au blocage. Il a rappelé en fait ce qui s'est passé en 2000 en Belgique suite à l'adoption de la loi de compétence universelle. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça. La Belgique, qui est vierge de tout passé, hein, on le sait bien, nous n'avons jamais été au Congo, considère en 2000 que le juge belge peut connaître de crimes de guerre, de crimes contre l'humanité et de crimes de génocide. Et donc, on peut, avec cette loi, un juge peut demander à n'importe quelle personnalité politique du monde, éventuellement, de venir devant la barre en Belgique. Alors à l'époque, ça avait suscité beaucoup de remous, notamment contre Donald Rumsfeld, je pense, contre certaines personnes au Rwanda. Et finalement, sur base de pression diplomatique intense, la Belgique avait dû faire marche arrière et renoncer à cette loi et l'abroger. Mais les débats sont les mêmes. Pourquoi ? Parce qu'en fait, derrière ce traitement diplomatique de la répression, de la négation du génocide arménien, se posent deux questions majeures. C'est un, comment définir un génocide ? Et deux, quelle autorité est compétente pour définir ce génocide ? Alors, il faut savoir qu'en Belgique, pour répondre à ces questions, lors des débats en 2004-2007, il y a eu deux thèses. La première, c'était ce qu'on a appelé la thèse de la liste. Ainsi, selon cette thèse, il faut nommer le génocide dans la loi et dire on réprime la négation du génocide des Juifs, du génocide des Arméniens et du génocide des Tutsis. C'est ce que certains parlementaires voulaient. Dès lors, dans ce cas-là, c'est le parlementaire belge qui définit le génocide et qui le liste. Une autre version, c'est ce que j'ai appelé la thèse de la disposition générique, qui consiste là à mettre dans la loi une disposition plus large et dire on réprime la négation des génocides. Et on peut éventuellement rajouter un paragraphe, et c'est ce que certains parlementaires voulaient, mentionnant que le génocide est défini par soit un texte international, soit par une juridiction internationale. Et donc ces deux thèses se sont opposées, il n'y a pas eu d'accord en fait par rapport à cela, mais elles permettent de réfléchir sur donc, la définition du concept de génocide et les autorités compétentes. Il faut savoir que derrière cette thèse, me semble, il peut y avoir en tout cas certains enjeux en termes de mémoire. Le premier enjeu, c'est la thèse de la liste, qui a tendance à faire un tri entre certains génocides et dire, ben voilà, il n'y aura que ceux que la loi reconnaît, alors que la thèse de la disposition générique se voudrait, attention, peut-être plus large, puisqu'elle ne définirait pas certains génocides. Mais alors, la question qui se pose, c'est une question qui va définir ce génocide. Et si c'est une juridiction internationale, on est quand même limité par certains génocides. Et puis, il y a aussi, malgré tout, derrière cette thèse, me semble-t'il, et là, je l'ai ressenti plus subjectivement dans le cadre de ma recherche, une certaine forme de concurrence des mémoires, et prendre le terme de Jean-Michel Chaumont, la concurrence des victimes, puisqu'en 1995, finalement, avec la loi du 23 mars 1995, on a accordé une ligne de crédit aux victimes du génocide des Juifs, en réprimant la négation de ce seul génocide. Au fur et à mesure que les années passent, d'autres communautés se sont manifestées, qu'elles soient tutsies ou arméniennes, et du coup, on a une volonté de dire, ben voilà, il y a d'autres personnes qui ont vécu des faits similaires et qui revendiquent certains droits, certaines formes de reconnaissance et qui revendiquent certains aspects pénaux aussi par rapport à la répression du négationnisme. Et là, je me souviendrai toujours, lorsque j'avais rencontré un dirigeant d'une association juive à Bruxelles, qui m'avait dit, à mi-mot, quand même, vous savez bien que les Juifs, c'est pas la même chose que les autres. Et donc, on sent bien dans leur discours une certaine forme de concurrence. Tout ne se vaut pas, ou pour certains, d'autres choses se valent. Bref, il ne faut pas oublier cet enjeu qui me semble, moi, fondamental. Alors, ben, vous avez donc, sur cette base-là, la représentation graphique des positions des acteurs, en tenant compte donc de la ligne, des trois lignes de fracture que je vous ai mentionnées. Si vous le comparez par rapport à l'ancien, vous voyez quand même tout de suite que ça s'est complexifié assez bien, et que là, il y a des positions quand même un peu plus difficiles à mettre ensemble. À cela, et ce sera le dernier point, expliquant et revenant sur ces dispositions, puis je clôturerai, il ne faut pas oublier la position d'une série d'élus face à leur électorat. Lors des débats, on a eu toute une série d'élus. Vous savez que la Belgique, c'est un État fédéral qui a différents niveaux de pouvoir. Vous avez le niveau fédéral, puis les communautés, les régions, et puis vous avez aussi d'autres niveaux, notamment le niveau local. Toute une série d'élus qui n'ont cessé soit de mettre de l'huile sur le feu, soit de réagir. Et vous avez par exemple Emir Kyr, qui est un ministre au niveau régional bruxellois, donc la région de Bruxelles est une région avec beaucoup de compétences à Bruxelles. Et bien ce ministre, d'origine turque, du Parti Socialiste, même parti que la ministre de la Justice qui avait proposé la loi, régulièrement critiqué la disposition, et puis il y a eu de nombreuses attitudes négationnistes. C'est en tout cas ce qu'a affirmé un tribunal civil en Belgique. Et puis vous avez les élus locaux de tous les partis, hein, tous partis confondus, d'origine turque, voire d'origine arménienne, qui ont aussi, eux, donné beaucoup d'écho à ces débats. En fait, il y a eu la position de la ministre de la Justice. La ministre de la Justice, elle se présentait ordinairement à Liège, d'où je viens, pour les élections communales. Et en 2006, c'est-à-dire 2 ans après le projet de loi, elle décide de changer de commune et d'aller à Schaerbeek, qui est une commune donc de la périphérie de Bruxelles. Et Schaerbeek, malheureusement pour elle, c'est la commune où il y a la plus grande communauté turque de Belgique. Et donc si elle veut se faire élire, eh bien elle doit prendre une décision. Soit elle décide d'aller en avant, soit elle décide d'envoyer le dossier en commission. Et c'est ce qu'elle va faire. Elle va décider qu'il y a trop d'agitation autour de ce débat. Et elle va demander donc d'envoyer le projet en commission de droit international et de droit humanitaire. Commission dont le projet n'est jamais ressorti, on n'a plus jamais entendu parler. Il faut savoir qu'en Belgique, contrairement à la France, on a une population turque d'environ 120 000 personnes, alors que la population arménienne est d'environ 15 à 20 000 personnes. En France, c'est tout à fait différent, ce qui explique aussi la configuration et l'option qui a été choisie ici en janvier 2012. Et donc on le voit, en 2004-2007, on a un système qui s'est complexifié par le nombre d'acteurs, ces entrepreneurs de mémoire de plus en plus importantes, qui ont toutes tous des enjeux, qui ont toutes des demandes différentes. On a aussi, de ce fait, des positions qui se complexifient, 3 lignes de fracture, et non plus 2 lignes de fracture. Et puis on a, en plus de cela, l'attitude d'une série d'élus. Et le problème, c'est qu'en Belgique, il y a énormément d'élections, puisque à cause des différents niveaux de pouvoir, en moyenne, il y a des élections tous les 2 ans, si pas tous les ans, qui fait que l'homme politique est bien souvent obligé d'agir en fonction de ses intérêts. Et donc on a là un blocage politique qui ne s'est jamais terminé. Et de manière sporadique, hein, tous les 6 mois, on a la communauté arménienne qui fait une petite manifestation, qui envoie une petite tête au Parlement. Mais rien ne se passe depuis lors. Et rien ne se passera certainement encore avant quelques mois ou quelques années, étant donné qu'on est en train de négocier actuellement la réforme de l'État au niveau belge et que la priorité n'est pas de traiter du négationnisme. Voilà, je vous remercie pour votre écoute.